3-9 La porte Saint-Martin. Les faits accomplis dans la matinée étaient déjà très sérieux. « Cela prend, » avait dit Bastide. « Le difficile, ce n'est pas d'incendier, c'est d'allumer. » Il était évident que Paris commençait à avoir de l'humeur. Paris ne se fâche pas à volonté. Il faut que ce soit sa fantaisie. Un volcan, cela a des nerfs. La colère venait lentement, mais venait. On voyait à l'horizon les premières rougeurs de l'éruption. Pour l'Élysée comme pour nous, le moment critique approchait. Depuis la veille, on se tâtait. Le coup d'État et la République allaient enfin se saisir corps à corps. Le comité avait beau vouloir enrayer. Quelque chose d'irrésistible entraînait les derniers défenseurs de la liberté et les poussait vers l'action. La suprême bataille allait s'engager. À Paris, quand de certaines heures ont sonné, quand apparaît la nécessité immédiate d'un progrès à accomplir ou d'un droit à venger, les insurrections gagnent rapidement toute la ville. Mais elles commencent toujours par quelqu'un. Paris, pour sa vaste tâche historique, se compose de deux personnages révolutionnaires, la bourgeoisie et le peuple. Et à ces deux combattants correspondent deux lieux de combat. La porte Saint-Martin, quand c'est la bourgeoisie qui se révolte, la Bastille, quand c'est le peuple. L'œil de l'homme politique doit toujours être fixé sur ces deux points. Ce sont là, dans la grande histoire contemporaine, deux places célèbres, où il semble qu'il y ait toujours un peu de la cendre chaude des révolutions. Qu'un vent d'en haut souffle, cette cendre ardente se disperse et remplit la ville d'étincelles. Cette fois, nous en avons indiqué les causes. Le redoutable faubourg Antoine dormait. Et on l'a vu, rien n'avait pu le réveiller. Un parc d'artillerie tout entier campait, mèches allumées, autour de la colonne de Juillet. Énorme sourde muette de la Bastille. Ce haut pilier révolutionnaire, ce témoin silencieux des grandes choses du passé, semblait avoir tout oublié. Chose triste à dire. Les pavés qui avaient vu le 14 juillet ne se soulevèrent pas sous les roues des canons du 2 décembre. Ce ne fut donc pas la Bastille qui commença, ce fut la porte Saint-Martin. Dès 8 heures du matin, les rues Saint-Denis et Saint-Martin, d'un bout à l'autre, étaient en rumeur. Des courants de passants indignés les descendaient et les remontaient. On y déchirait les affiches du coup d'État. On y placardait nos proclamations. Des groupes au coin de toutes les rues adjacentes commentaient le décret de mise hors la loi rendu par les membres de la gauche restés libres. On s'arrachait les exemplaires. Des hommes montés sur les bornes lisaient à haute voix les noms des 120 signataires. Et plus encore que la veille, chaque nom significatif ou célèbre était couvert d'applaudissements. La foule augmentait à chaque instant, et la colère. La rue Saint-Denis, tout entière, présentait cet aspect étrange que donne à une rue toutes les portes et toutes les fenêtres fermées et tous les habitants dehors. Regardez les maisons, c'est la mort. Regardez la rue, c'est la tempête. Une cinquantaine d'hommes résolus sortit tout à coup d'une ruelle latérale et se mit à parcourir la rue en criant « Aux armes ! Vive les représentants de la gauche ! Vive la Constitution !» Le désarmement des gardes nationaux commença. Il se fit plus facilement que la veille. En moins d'une heure, on eut 150 fusils. La rue, cependant, se couvrait de barricades. 3-10 Ma visite aux barricades. Mon cocher me déposa à la pointe Saint-Eustache et me dit « Vous voilà dans le guépier ». Il ajouta « Je vous attendrai rue de Lavrillière, près de la place des Victoires. Prenez votre temps ». Je me mis à marcher de barricade en barricade. Dans la première, je rencontrai deux flottes qui s'offrit à me servir de guide. Pas d'homme plus déterminé que deux flottes. J'acceptai. Il me mena partout où ma présence pouvait être utile. Chemin faisant, il me rendit compte des mesures prises par lui pour imprimer nos proclamations. L'imprimerie Boulet faisant défaut, il s'était adressé à une presse lithographique. Rue Bergère, numéro 30, et, au péril de leur vie, deux hommes vaillants avaient imprimé 500 exemplaires de nos décrets. Ces deux braves ouvriers se nommaient, l'un Rubens, l'autre Achille Poincelot. Tout en marchant, j'écrivais des notes au crayon, avec le crayon de Baudin que j'avais sur moi. J'enregistrais les faits pêle-mêle. Je reproduis ici cette page. Ces choses vivantes sont utiles pour l'histoire. Le coup d'État est là, comme saignant. Matinée du 4. On dirait le combat suspendu. Va-t-il reprendre ? Barricades visitées par moi. Une à la Pointe Saint-Eustache. Une à la Halle aux Huîtres. Une rue Montconseil. Une rue Ticton. Une rue Mandard, Rocher de Cancale. Une barrant la rue du Cadran et la rue Montorgueil. Quatre fermant le petit carreau. Commencement d'une entre la rue des Deux Portes et la rue Saint-Sauveur, barrant la rue Saint-Denis. Une, la plus grande, barrant la rue Saint-Denis à la hauteur de la rue Guérin-Boisseau. Une, barrant la rue Grenetta. Une, plus avant, dans la rue Grenetta, barrant la rue Bourlabé. Au centre, une voiture de farine renversée. Bonne barricade. Rue Saint-Denis, une, barrant la rue du Petit Lion Saint-Sauveur. Une, barrant la rue du Grand Hurleur, avec les quatre coins barricadés. Cette barricade a déjà été attaquée ce matin. Un combattant, Massonnet, rue Saint-Denis, 154, a reçu une balle dans son paletot. Du Papet, dit l'homme à la longue barbe, est resté le dernier sur la crête de la barricade. On l'a entendu crier aux officiers commandant l'attaque. « Vous êtes des traîtres !» On le croit fusillé. La troupe s'est retirée, chose étrange, sans démolir la barricade. On construit une barricade, rue du Renard. Quelques gardes nationaux, en uniforme, la regardent construire, mais n'y travaillent pas. Un d'eux me dit, « Nous ne sommes pas contre vous, vous êtes avec le droit. » Ils ajoutent qu'il y a 12 ou 15 barricades, rue Rambuteau. Ce matin, au point du jour, on a tiré le canon. « Ferme, » me dit l'un d'eux, « rue Bourbon-Villeneuve. » Je vais visiter une fabrique de poudre improvisée par Le Guével chez un pharmacien, vis-à-vis la rue Guérin-Boisseau. On construit les barricades à l'amiable, sans fâcher personne. On fait ce qu'on peut pour ne pas froisser le voisinage. Les combattants de la barricade Bourlabé sont les pieds dans la boue à cause de la pluie. C'est un cloaque. Ils hésitent à demander une botte de paille. Ils se couchent dans l'eau ou sur les pavés. J'ai vu là un jeune homme malade, sorti de son lit avec la fièvre. Il m'a dit « Je m'y ferai tuer ». Il l'a fait. Rue Bourbon-Villeneuve, on n'a pas même demandé aux bourgeois un matelas. Quoique la barricade étant carronnée, on en eut besoin pour amortir les boulets. Les soldats font mal les barricades parce qu'ils les font bien. Une barricade doit être branlante. Bien bâtie, elle ne vaut rien. Il faut que les pavés manquent d'aplomb, afin qu'ils s'éboulent sur les troupiers, me dit un gamin, et qu'ils leur cassent les pattes. L'entorse fait partie de la barricade. Jean Tissard est le chef de tout un groupe de barricades. Il me présente son second, charpentier, homme de 36 ans, lettré et savant. Charpentier s'occupe d'expérience ayant pour but de remplacer le charbon et le bois par le gaz dans la cuisson de la porcelaine. Et il me demande la permission de me lire un de ces jours une tragédie. Je lui dis, nous en faisons une. Gentil Sart gronde charpentier. Les munitions manquent. Gentil Sart ayant chez lui, rue Saint-Honoré, une livre de poudre de chasse et 20 cartouches de guerre, a envoyé charpentier les chercher. Charpentier y est allé, a rapporté la poudre de chasse et les cartouches, mais les a distribuées aux combattants des barricades qu'il a rencontrés chemin faisant. Ils étaient comme des affamés, dit-il. Charpentier n'a de sa vie touché une arme à feu. Jean Tissard lui montre à charger un fusil. On mange chez le marchand de vin du coin et l'on s'y chauffe. Il fait très froid. Le marchand de vin dit « Ceux qui ont faim, allez manger ». Un combattant lui a demandé « Qui est-ce qui paiera ?»« La mort », a-t-il répondu. Et en effet, quelques heures après, il a reçu 17 coups de baïonnette. On n'a pas brisé les conduits de gaz, toujours, pour ne pas faire trop de dégâts. On s'est borné à prendre aux portiers du gaz leurs clés et aux allumeurs leurs perches à ouvrir les tuyaux. De cette façon, on est maître d'allumer ou d'éteindre. Ce groupe de barricades est fort et jouera un rôle. J'ai espéré un moment qu'on l'attaquerait pendant que j'y étais. Le clairon s'est approché, puis s'est éloigné, et Gentilsart vient de me dire « Ce sera pour ce soir ». Son intention est d'éteindre le gaz, rue du Petit Carreau, et dans toutes les rues voisines, et de ne laisser qu'un bec allumé rue du Cadran. Il a mis des sentinelles jusqu'au coin de la rue Saint-Denis. Il y a là un côté ouvert, sans barricade, mais peu accessible à la troupe, à cause de l'exiguïté des rues. On n'y peut entrer qu'un à un, donc peu de danger. Utilité des rues étroites. La troupe ne vaut rien qu'en bloc. Le soldat n'aime pas l'action éparse. En guerre, se toucher les coudes, c'est la moitié de la bravoure. Gentilsart a un oncle réactionnaire qu'il ne voit pas, et qui demeure tout près, rue du Petit Carreau, numéro 1. « Quelle peur nous lui ferons tout à l'heure ?» me dit Gentilsart en riant. Ce matin, Gentilsart a inspecté la barricade Montorgueil. Il n'y avait qu'un homme qui était ivre, et qui lui a mis le canon de fusil sur la poitrine, en lui disant « On ne passe pas !» Gentilsart l'a désarmé. Je vais rue Pagevin. Il y a là, à l'angle de la place des Victoires, une barricade très bien faite. Dans la barricade d'à côté, rue Jean-Jacques Rousseau, la troupe ce matin n'a pas fait de prisonniers. Les soldats ont tout tué. Il y a des cadavres jusque sur la place des Victoires. La barricade Pagevin s'est maintenue. Ils sont là 50, bien armés. J'y entre. Tout va bien ? Oui. Courage ! Je serre toutes ses mains vaillantes. On me fait un rapport. On a vu un garde municipal écraser la tête d'un mourant à coups de crosse. Une jeune fille jolie, voulant rentrer chez elle, s'est réfugiée dans la barricade. Elle y est restée une heure, épouvantée. Quand le danger a été passé, le chef de la barricade l'a fait reconduire chez elle par le plus âgé de ses hommes. Comme j'allais sortir de la barricade Pagevin, on m'a amené un prisonnier, un mouchard, disait-on. Il s'attendait à être fusillé. Je l'ai fait mettre en liberté. Bancel était dans cette barricade de la rue Pagevin. Nous nous serrâmes la main. Il me demanda « Vaincrons-nous ? » « Oui, » lui répondis-je. Nous en étions presque à ne plus douter. De Flotte et lui voulurent m'accompagner, craignant que je ne fusse arrêté par un bataillon qui gardait la banque. Le temps était brumeux et froid, presque ténébreux. Cette obscurité nous cachait et nous aidait. Le brouillard était pour nous. Comme nous touchions au coin de la rue de la Vrillière, un groupe à cheval passa. C'étaient quelques officiers, précédés d'un homme qui semblait militaire, mais qui n'était pas en uniforme. Il portait un caban à capuchon. De Flotte me poussa le coude et me dit à demi-voix « Connaissez-vous Fialin ?» Je répondis « Non ». « L'avez-vous vu ?»« Non ». « Voulez-vous le voir ?» « Non. Regardez-le. » Je regardais. Cet homme, en effet, passait devant nous. C'était lui qui précédait le groupe d'officiers. Il sortait de la banque. Était-il venu y faire un nouvel emprunt forcé ? Les gens qui étaient sur les portes le considéraient avec curiosité et sans colère. Toute sa personne était insolente. Il se tournait de temps en temps pour dire un mot à l'un de ceux qui le suivaient. Cette petite cavalerie piaffait dans la brume et dans la boue. Fialin avait l'air arrogant d'un homme qui caracole devant un crime. Il regardait les passants d'une façon altière. Son cheval était très beau et, pauvre bête, semblait très fier. Fialin souriait. Il avait à la main la cravache que sa figure méritait. Il passa. Je n'ai vu cet homme que cette fois. De Flotte et Bancel ne me quittèrent que lorsqu'ils m'eurent vu remonter dans mon fiacre. Mon brave cocher m'attendait rue de la Vrillière. Il me ramena au numéro 15 de la rue Richelieu. 3-11. La barricade de la rue Mellay. La première barricade de la rue Saint-Martin fut construite à la hauteur de la rue Mellay. On renversa une grande charrette, on la coucha en travers de la rue et l'on dépava la chaussée. Quelques dalles de trottoir même furent arrachées. Cette barricade, tête de défense de toute la rue insurgée, ne pouvait être qu'un obstacle momentané. Nulle part les pavés n'y dépassaient la hauteur d'homme. Surtout un grand tiers de la barricade, il ne montait pas au-dessus du genou. « Cela sera toujours bon pour s'y faire tuer, » disait un gamin qui y roulait force pavés. une centaine de combattants prirent position derrière. Vers 9 heures, les mouvements de troupes annoncèrent l'attaque. Les têtes de colonne de la brigade Marulaz occupèrent l'angle de la rue du côté du boulevard. Une pièce de canon enfilant toute la rue fut mise en batterie devant la porte Saint-Martin. On s'observa quelque temps des deux parts dans ce silence bourru qui précède le choc. La troupe regardant la barricade hérissée de fusils, la barricade regardant le canon béant. Bientôt l'ordre de l'attaque générale fut donné. Le feu commença. Le premier boulet passa par-dessus la barricade et frappa en pleine poitrine, à 20 pas en arrière, une femme qui passait. Elle tomba, éventrée. Le feu devint vif, sans endommager beaucoup la barricade. La pièce était trop près, les boulets portaient trop haut. Les combattants, qui n'avaient pas encore perdu un homme, recevaient chaque boulet au cri de « Vive la République !» mais sans tirer. Ils avaient peu de cartouches, et ils les ménageaient. Tout à coup, le 49e régiment déboucha en colonne serrée. La barricade fit feu. La fumée emplit la rue. Quand elle se dissipa, on vit une dizaine d'hommes sur le pavé et les soldats se repliant en désordre le long des maisons. Le chef de la barricade cria « Il lâche pied ! Arrêtez le feu ! Ne perdons pas une balle !» La rue resta quelque temps déserte. Le feu de la pièce recommença. Un boulet arrivait de 2 en 2 minutes, mais portait toujours mal. Un homme qui avait un fusil de chasse s'approcha du chef de la barricade et lui dit « Démontons la pièce, tuons les canonniers. Pourquoi ?» dit le chef en souriant. « Ils ne nous font pas de mal, ne leur en faisons pas. » Cependant, on entendait distinctement le clairon, au-delà du massif de maisons qui masquait les troupes échelonnées sur le carré Saint-Martin. Et il était visible qu'une deuxième attaque se préparait. Cette attaque serait nécessairement ardente, acharnée, opiniâtre. Il était également évident que, cette barricade enlevée, la rue entière serait balayée. Les autres barricades étaient plus faibles encore que la première, et encore moins défendues. Les bourgeois avaient donné leurs fusils et étaient rentrés dans leurs maisons. Ils prêtaient leurs rues, voilà tout. Il fallait donc tenir dans la barricade de tête le plus longtemps possible. Mais que faire et comment résister? On avait à peine 2 coups à tirer par homme. Un ravitaillement inattendu leur vint. Un jeune homme, je puis le nommer, il est mort, note. Il ne faut pas oublier que ceci a été écrit en exil et que nommer des héros, c'était désigner des proscrits. Fin de note. Pierre Tissier, qui était un ouvrier et qui était aussi un poète, avait travaillé une partie de la matinée à la barricade, et au moment où le feu commençait, il s'en était allé, alléguant pour motif qu'on ne lui donnait pas de fusil. On avait dit dans la barricade « En voilà un qui a peur ». Pierre Tissier n'avait pas peur, on le vit plus tard. Il quitta la barricade. Pierre Tissier n'avait sur lui que son couteau, qui était un couteau catalan. Il l'ouvrit à tout hasard, le tint à la main, et s'en alla devant lui. Comme il sortait de la rue Saint-Sauveur, il vit, au coin d'une petite rue déserte, dont toutes les fenêtres étaient fermées, un soldat de la ligne en vedette, posté là sans doute par quelques grands gardes peu éloignés. Ce soldat se tenait en arrêt, le fusil haut, prêt à tirer. Il entendit le pas de Pierre Tissier et cria « Qui vive ?»« La mort !» répondit Pierre Tissier. Le soldat tira et manqua Pierre Tissier, qui sauta sur lui et l'abattit d'un coup de couteau. Le soldat s'affaissa et rendit le sang par la bouche. « Je ne savais pas si bien dire, » murmura Pierre Tissier, et il ajouta « À l'ambulance !» Il chargea le soldat sur son dos, ramassa le fusil qui était tombé à terre et revint à la barricade. « J'apporte un blessé, » dit-il. « Un mort !» lui cria-t-on. En effet, le soldat venait d'expirer. « Infâme Bonaparte !» dit Tissier. « Pauvre Piu-Piu, c'est égal, j'ai un fusil. » On vida le sac et la giberne du soldat. On se partagea les cartouches. Il y en avait 150. Il y avait aussi 2 pièces d'or de 10 francs, paie des 2 journées depuis le 2 décembre. On les jeta sur le pavé. Personne n'en voulut. On se distribua les cartouches au cri de « Vive la République !» Cependant, les assaillants avaient mis en batterie un obusier à côté du canon. La distribution des cartouches était à peine finie que l'infanterie parut et se rua sur la barricade à la baïonnette. Ce 2e assaut, comme on l'avait prévu, fut âpre et rude. On le repoussa. 2 fois l'infanterie revint à la charge. 2 fois elle recula, laissant la rue jonchée de morts. Dans l'intervalle des assauts, un obus avait troué et démantelé la barricade, et le canon tirait à mitraille. La situation était désespérée. Les cartouches étaient épuisées. Quelques-uns commencèrent à jeter leurs fusils et à s'en aller. Pour s'échapper, il n'y avait que la rue Saint-Sauveur, et pour atteindre le coin de la rue Saint-Sauveur, il fallait franchir la partie basse de la barricade qui laissait presque tout l'homme à découvert. Les biscayens et les balles pleuvaient là. 3 ou 4 y furent tués, dont un, comme Baudin, d'une balle dans l'œil. Le chef de la barricade s'aperçut tout à coup qu'il était seul avec Pierre Tissier et un enfant de 14 ans, le même qui avait tant roulé de pavés. Une 3e attaque s'annonçait, et les soldats commençaient à s'avancer le long des maisons. « Allons-nous-en, » dit le chef de la barricade. « Je reste, » dit Pierre Tissier. « Et moi aussi, » dit l'enfant. Et l'enfant ajouta, « Je n'ai ni père ni mère, autant ça qu'autre chose. » Le chef lâcha son dernier coup de fusil et se retira comme les autres par la partie basse de la barricade. Une décharge fit tomber son chapeau. Il se baissa et le ramassa. Les soldats n'étaient plus qu'à 25 pas. Il cria aux 2 qui restaient, « Venez !»« Non !» dit Pierre Tissier. « Non !» dit l'enfant. Quelques instants après, les soldats escaladaient la barricade, déjà à demi écroulée. Pierre Tissier et l'enfant furent tués à coups de baïonnette. On abandonna dans cette barricade 20 fusils. 3-12. La barricade de la mairie du 5e arrondissement. Les gardes nationaux en uniforme remplissaient la cour de la mairie du 5e arrondissement. Il en survenait à chaque instant. Un ancien tambour de la garde mobile avait pris une caisse dans une salle basse à côté du corps de garde et s'était mis à battre le rappel dans les rues environnantes. Vers 9 heures, un groupe de 14 ou 15 jeunes gens, la plupart en blouse blanche, entra dans la mairie en criant « Vive la République !» Ils étaient armés de fusils. La garde nationale les accueillit par les cris « À bas, Louis Bonaparte !» On fraternisa dans la cour. Tout à coup, un mouvement se fit. C'étaient les représentants d'Outre et Pelletier qui arrivaient. « Que faut-il faire ? » cria la foule. « Des barricades !» dit Pelletier. On se mit à dépaver. Une grosse charrette, chargée de sacs de farine, descendait du faubourg et passait devant la porte de la mairie. On détela les chevaux que le charretier emmena, et l'on tourna la charrette, sans la renverser, en travers de la large chaussée du faubourg. La barricade fut complétée en un instant. Un camion survint. On le prit et on le dressa contre les roues de la charrette, comme on pose un paravent devant une cheminée. Le reste était futaille et pavé. Grâce au chariot de farine, la barricade était haute et montait jusqu'au 1er étage des maisons. Elle coupait le faubourg à l'angle même de la petite rue Saint-Jean. On avait ménagé à la barricade une gorge étroite sur le coin de rue. « Une barricade ne suffit pas, » dit Doutre. « Il faut placer la mairie entre 2 barrages pour pouvoir se défendre des 2 côtés à la fois. » On construisit une autre barricade tournée vers le haut du faubourg. Celle-ci, basse et faible, faite seulement de planches et de pavés. 100 pas environ séparaient les 2 barricades. Il y avait 300 hommes dans cet espace. 100 seulement avaient des fusils. La plupart n'avaient qu'une cartouche. La fusillade commença vers 10 heures. 2 compagnies de ligne parurent et firent quelques feux de peloton. C'était une fausse attaque. La barricade riposta et eut le tort d'épuiser étourdiment ses munitions. La ligne se retira. Alors l'attaque véritable se fit. les chasseurs de Vincennes débouchèrent du coin du boulevard. Ils se mirent, selon la tactique africaine, à ramper le long des murs, puis ils prirent leur course et se lancèrent sur la barricade. Plus de munitions dans la barricade, pas de quartier à attendre. Ceux qui n'avaient plus ni poudre ni balles jetèrent leurs fusils. Quelques-uns voulurent reprendre position dans la mairie, mais il était impossible de s'y défendre. Elle était ouverte et dominée de toutes parts. Ils escaladèrent les murs et se dispersèrent dans les maisons voisines. D'autres s'échappèrent par la gorge de la barricade qui donnait sur la rue Saint-Jean. La plupart des combattants gagnèrent le revers de la barricade opposée. Et ceux qui avaient encore une cartouche firent, du haut des pavés, une dernière décharge sur les assaillants. Puis ils attendirent la mort. On les tua tous. Un de ceux qui parvinrent à se glisser dans la rue Saint-Jean, où du reste ils essuyèrent un feu de peloton des assaillants, était M. H. Coste, rédacteur de l'Événement et de l'Avènement du peuple. M. Coste avait été capitaine dans la garde mobile. À un coude que faisait la rue et qui le mit hors de la portée des balles, M. Coste aperçut devant lui l'ancien tambour de la garde mobile, qui s'était échappé comme lui par la rue Saint-Jean et qui profitait de la solitude de la rue pour se débarrasser de sa caisse. « Garde ta caisse !» lui cria-t-il. « Pourquoi faire ?»« Pour battre le rappel. »« Où ?»« À Batignolles. » « Je la garde !» dit le tambour. Ces deux hommes sortaient de la mort et consentaient immédiatement à y rentrer. Mais comment traverser tout Paris avec cette caisse ? La première patrouille qui les rencontrerait les fusillerait. Un portier d'une maison voisine, qui vit leur embarras, leur donna une serpillière. Ils en enveloppèrent la caisse et gagnèrent Batignolles par les rues désertes qui avoisinent le mur de ronde.